Merci. Et dans les semaines qui viennent, j'aimerais qu'on regarde dans l'Épître aux Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament. Et c'est une assez longue épître, quoique l'auteur nous dise qu'il a écrit brièvement. Alors, il y a 13 chapitres bien complets. Et ce que j'ai pensé faire, c'est regarder les plus beaux versets, c'est-à-dire sauter d'un chapitre à l'autre en prenant les versets les plus marquants. Bien que toute la parole de Dieu soit utile, je ferai des sauts dans cette épître aux Hébreux. À la fin, il est écrit, du tout dernier verset, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Et ça ressemble à qui là? À Paul, hein? Et pourtant, cette épître est la seule qui n'est pas signée. Toutes les autres épîtres, c'est Paul, apôtre, à l'église d'Éphèse, de Philippe. Et là, il n'y a pas de signature. Donc certains disent, ah non, c'est pas Paul, c'est peut-être un Barnabas ou un autre, etc. Ça ne change pas grand-chose, mais il est possible que Paul n'ait pas voulu signer parce qu'il s'adresse aux Hébreux, c'est-à-dire à ses frères juifs qui avaient quelques difficultés avec Jésus comme Messie. Et pour ne pas qu'il rejette son épître, parce que Paul était considéré comme un traître, hein, vraiment le pire des traîtres même, il avait pourchassé les chrétiens, il travaillait pour le gouvernement juif pour arrêter et tuer les chrétiens, et puis un jour, sa vie a été retournée, il a rencontré Jésus-Christ ressuscité, et il est devenu chrétien lui-même, apôtre, disciple, serviteur de Jésus-Christ. Alors, il était regardé comme le pire des Juifs, le pire ennemi, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu signer ici. En tout cas, cette épître aux Hébreux, elle n'intéresse pas que les Hébreux, elle nous intéresse nous aussi. Mais pour bien comprendre pourquoi elle a été écrite, c'est que les premiers chrétiens étaient tous juifs. Puisque Jésus était juif, il a prêché, il a été à Jérusalem, il a été crucifié à Jérusalem et la première église était à Jérusalem. Et puis petit à petit, des non-juifs sont venus à la foi et l'église s'est remplie de non-juifs, hein, de Grecs et de Romains. Et voilà, elle a grandi comme ça. Et parmi les juifs, certains, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Ils ont regardé dans leurs écritures, ils ont dit, ce Jésus, il correspond vraiment au Messie que nous attendions. Alors je crois qu'il est le Messie. Et ils sont devenus ce que nous on appelle aujourd'hui des juifs messianiques. C'est pas comme ça qu'ils s'appelaient eux, mais on les appelle des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui croient que le Messie est déjà là, déjà arrivé, que c'est Jésus, Yeshua. Mais parmi ces juifs qui croyaient en Jésus, certains croyaient d'un cœur tiède. Et certains étaient revenus dans le judaïsme traditionnel. Ils avaient suivi les chrétiens pendant un temps, l'Église, et puis ils étaient sortis pour revenir dans le judaïsme. Et cette épître est là pour les encourager à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ et à montrer que Jésus est bien le Messie et qu'il est au-dessus de tout. Ce qui fait qu'ils avaient tendance à retourner en arrière, c'est qu'ils ne voyaient pas à quel point Jésus était important. Pour eux, ils disaient, bah, c'est un rabbin, il a fait quelques miracles, voilà, ça ne vaut pas la peine d'être persécuté, parce que quand vous deveniez chrétien, vous étiez persécuté par votre famille, par votre synagogue, par tous vos proches. Alors, certains avaient peur et revenaient en arrière. Mais nous aussi, on peut être touché par ce problème, c'est-à-dire on peut avoir être touché par la Bible, par le message de Jésus-Christ, dire oui, je crois en lui, et puis arrivent des obstacles, arrivent des problèmes, arrivent des attaques, parfois des persécutions dans d'autres pays, hein, où on est vraiment persécuté parce qu'on est chrétien. Et là, la tentation, c'est de dire, oh là là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que moi, je voulais une religion tranquille, et là, j'ai des persécutions. Et cette épître va nous aider à voir que ça vaut la peine de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vraiment le Sauveur, le Seigneur, il est Dieu, et avec lui, on a une vie extraordinaire, on a un salut parfait, Et c'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure. Alors, le premier verset que j'ai choisi dans le chapitre 1, c'est les versets 2 et 3, hein, ces deux versets. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Juste avant ça, il avait dit, Dieu nous avait autrefois parlé par des prophètes, verset 1. Mais maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il veut montrer dans cette parole de Dieu ici, inspirée, que Jésus n'est pas un simple prophète. Dans le temps passé, Dieu avait parlé par des prophètes, mais là, Dieu est venu nous parler avec le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Fils? Le Fils, ça veut dire celui qui vient de Dieu, hein, celui qui représente Dieu. Et il décrit ce Fils, hein. Il dit, il a établi héritier, il a aussi créé l'univers. Et puis verset 3, il est le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand vous voyez votre reflet, qui est-ce que vous voyez dans le miroir? Ben vous, hein, soi. Quand je me vois dans le reflet, c'est moi. Quand on voit votre empreinte dans la boue, c'est l'empreinte de qui? Ben, c'est votre empreinte si c'est vous qui l'avez faite. On est d'accord jusque-là? Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il veut me dire là? C'est trop simple. Eh bien, Jésus, il est le reflet de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu, c'est ce qu'il dit, hein? C'est-à-dire, il est Dieu. Il n'est pas juste un prophète de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas un ange de Dieu. Il est Dieu. Mais pourquoi est-il, il dit qu'il est son empreinte et son reflet? Parce que la Bible nous enseigne que Dieu est esprit et qu'on ne peut pas le voir. Dieu est invisible en tant que tel. Et donc nos yeux ne peuvent pas voir Dieu. Deuxième chose, non seulement Dieu est invisible, mais en plus il est tellement saint que s'il s'approche de nous, nous serions tous consumés par sa sainteté, parce que nous sommes pécheurs. Et donc, Dieu voulant s'approcher de nous, s'est incarné et s'est révélé, s'est manifesté physiquement, visiblement, en la personne de Jésus. En fait, Jésus, il est Dieu qui s'est fait chair, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Et Jésus est pleinement Dieu, mais Dieu qui s'est fait homme. La preuve qu'il est pleinement Dieu, j'aimerais juste vous citer deux versets parce que dans l'islam, chez les témoins de Jéhovah, entre autres, dans ces deux groupes religieux, la divinité de Jésus est niée. On dit non, Jésus n'est pas Dieu. Dans l'islam, on dit que Jésus était un prophète et chez les témoins de Jéhovah, on dit qu'il était un archange. Et ce chapitre 1 va nous montrer que Jésus n'était ni un prophète ni un archange. Mais regardez, si vous avez votre Bible, Romains 9, 5. Alors, dans le contexte, verset 4, hein, il parle des Juifs, des Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Les Israélites, de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Donc ici, il nous est dit que le Messie, Jésus-Christ, est le Dieu béni éternellement. Alors, qu'ont fait les témoins de Jéhovah, en tout cas leurs chefs qui sont malhonnêtes, ils ont modifié ce verset dans leur traduction. Ils ont dit, qui est le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu soit béni éternellement. Comme si, à ce moment-là, Paul s'arrêtait et disait, oh, Dieu soit béni. Alors c'est beau, sauf que ce n'est pas dans le texte original. Dans aucun texte grec, vous n'avez soit béni. C'est bien écrit clairement que le Christ est le Dieu béni éternellement. Donc Jésus est Dieu. Un autre verset qui le dit clairement, c'est dans la première épître de Jean, le chapitre 5. Première épître de Jean, donc c'est près de l'Apocalypse, là, hein, tout à la fin. Le chapitre 5, les deux derniers versets, 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors là, c'est presque encore plus clair, hein. Jean nous dit que qui est le Dieu véritable là? Voilà, le Fils Jésus-Christ est le Dieu véritable, est Dieu, véritablement Dieu. Encore une fois, les témoins de Jéhovah ont dû modifier ce texte pour que ça colle avec leur théologie. Hein. Ils ont trafiqué la Bible. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas la Bible. Ce qu'ils lisent, ça s'appelle la traduction du monde nouveau. Quant aux musulmans, ils n'ont même pas pris la peine de trafiquer la Bible. Ils ont dit la Bible est fausse. Donc les juifs et les chrétiens l'ont modifiée. Donc voilà. Oui. Alors ça s'appelle aussi les Saintes Écritures, effectivement, mais traduction du monde nouveau. Ouais. Mais ils n'ont pas le droit de l'appeler la Bible parce que c'est pas la Bible. Ils ont modifié. Donc nous voyons que la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est le Messie. Il est Dieu. Dieu fait homme, Dieu incarné, Dieu qui se révèle à nous. Donc Jésus n'est pas un simple prophète qui nous annonce un message comme les autres prophètes l'ont fait. Il est Dieu lui-même qui est venu. Autant dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait de façon déguisée, cachée, si on peut dire, à travers l'ange de l'Éternel ou à travers ses prophètes. Mais là, à la fin des temps, il est venu en personne. Dieu, dans son amour, est venu vers nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. On dit, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ce monde? Ben, Dieu est venu. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu. Il a prouvé son amour en venant. Et puis, il nous donne des qualités, des capacités du Fils. Je reviens à Hébreux chapitre 1. Il dit qu'il nous a parlé, donc Christ a parlé, et tout ce qu'il a dit est la parole de Dieu. Il est héritier de toutes choses, c'est-à-dire il domine, il règne sur toutes choses. Il régnera sur l'univers. Il a même créé l'univers aussi. Donc Jésus-Christ est le créateur. C'est confirmé aussi dans l'épître de Paul aux Colossiens. Il est dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc le Fils de Dieu est le créateur. Qui peut être créateur si ce n'est Dieu, hein, de toute façon? Qui peut avoir la capacité de créer? Quand on lit la Genèse, on voit qu'il n'y avait rien que Dieu et les anges, et puis Dieu a dit que la lumière soit, et il a créé le ciel et la terre de rien, c'est sorti de sa parole. Qui pouvait faire ça si ce n'est Dieu lui-même? Non seulement il est le créateur, mais il est dit, verset 3, il soutient toute chose par sa parole puissante. Et si les choses sont encore soutenues dans l'univers, c'est grâce à Jésus-Christ. On a vu ça ce matin à l'Institut. Au niveau matériel, au niveau de la matière, nous savons que ce qui tient la matière ensemble dans l'univers, c'est l'énergie. Voilà. La matière est faite d'atomes, hein, des petites particules, et ces atomes sont reliés par de l'énergie. Et c'est cette énergie qui fait que ces atomes sont solides. S'il n'y avait pas l'énergie, tous les atomes tomberaient. Et on peut vraiment y voir là la parole de Dieu ici. Il soutient tout par sa parole. Si Dieu dit, j'arrête de soutenir l'univers, l'univers s'effondre. Et c'est ce qui va arriver, on voit ça en 2 Pierre chapitre 3, ne cherchez pas, où il est dit que le monde qu'on connaît se dissoudra, se dissolvera, sera complètement dissous par le jugement final de Dieu à la fin du monde. Donc Dieu dira, je retire mon soutien. J'enlève cette énergie qui tient l'univers et tout s'effondrera. Mais il soutient toute chose, ça peut aussi avoir d'autres sens, évidemment, hein. C'est qu'il soutient notre vie, il soutient notre terre, notre monde. Même si notre monde est fragile et a beaucoup de problèmes, hein, ce qui soutient tout ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, Verset 3, il continue. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. Alors, c'est un peu curieux cette idée de s'asseoir à la droite de Dieu. Est-ce que Jésus a pris une chaise et est allé s'asseoir à la droite de Dieu? Donc, c'est quand même là une façon de parler dans le judaïsme et dans la Bible, hein, pour dire la droite de Dieu, c'est là où est toute l'autorité et la puissance de Dieu. La droite, dans la Bible, hein, quand il dit je vous punirai de ma droite, ça veut dire avec mon bras d'autorité et de puissance. Christ s'est assis à la droite, c'est-à-dire qu'il a reçu toute autorité et toute puissance du Père. Mais avant ça, il a fait la purification des péchés. Les prophètes n'ont jamais fait la purification des péchés. Les prophètes ont parlé du péché, du pardon. La loi de Dieu parlait du pardon des péchés. Les sacrificateurs ont sacrifié des animaux dans l'Ancien Testament. Mais il n'y en a qu'un qui a vraiment fait cette purification, c'est Jésus-Christ. Comment l'a-t-il fait? On le voit dans le reste de la Bible et même dans l'Épître aux Hébreux, en mourant sur la croix. Il a été l'agneau de Dieu qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour payer les péchés de toute l'humanité. Ce n'est pas que Jésus est mort en martyr ou que Jésus est mort par amour pour nous simplement. C'est que sa mort était voulue, était un sacrifice. Elle était annoncée dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de chapitres, hein, beaucoup de passages. Mais en plus, et la Bible dit qu'il a donné sa vie. Lorsque Jésus a été arrêté et qu'il est comparu devant Pilate. Pilate était le gouverneur qui était à Jérusalem et Pilate avait toute autorité. C'est-à-dire, si Pilate disait relâchez-le, personne ne pouvait aller contre cette parole. Et lorsque Jésus était devant Pilate, Pilate était très troublé parce qu'il ne voyait rien de mal dans cet homme. Jésus avait déjà été frappé, fouetté, il devait être dans un sale état. Et en plus, la femme de Pilate, pendant la nuit, avait eu un mauvais rêve au sujet de Jésus, et pendant qu'il était jugé au tribunal, et elle avait dit à Pilate, écoute, n'aie rien à faire avec ce juste. Donc, il savait que Jésus était juste, qu'il n'avait rien fait, et il voyait en même temps les chefs religieux qui voulaient à tout prix se débarrasser de Jésus, et il était entre deux feux. Alors il dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi! Et Jésus ne répond rien. Et au bout d'un moment, Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jésus dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné du Père. Pilate ne comprend rien à ce qui se passe. Il dit, mais pourquoi cet homme ne se défend pas? Il est innocent. Il suffit qu'il me dise, je suis innocent. Ça y est, pouf, je le libère tout de suite. Pilate était prêt à le libérer. Même, il va chercher encore une excuse. Il va dire, ah, la fête de Pâques, on libère toujours quelqu'un, on fait une grâce, on gracie un coupable. Alors, Barabbas, oui, qui était alors le pire des meurtriers, c'était vraiment un criminel notoire, Barabbas. Hein, c'était quelqu'un qui n'inspirait aucune pitié. Et puis, il y a Jésus. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Donc, il a pris vraiment un cas horrible en disant, ils vont choisir Jésus quand même, ils vont libérer Jésus. Et les gens disent, libère Barabbas! Alors là, ils veulent vraiment la mort de cet homme. Et finalement, il n'a pas le courage d'aller selon sa conscience et ses convictions. Et ça, c'est terrible, hein? Au lieu de suivre sa conscience et la conscience que Dieu lui a donnée, il va suivre la foule, il a peur de la foule. Et il va dire, je m'en lave les mains, je vous le livre. Et il a livré Jésus aux chefs religieux qui l'ont amené et l'ont fait crucifier par des soldats romains. Jésus ne s'est pas défendu. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix. Lorsque Pierre a voulu le défendre, Jésus a dit, range ton épée. Jésus a dit, il le fallait, des légions d'anges pourraient me défendre. Mais ce n'était pas le moment, c'était l'heure de mourir pour nous. Et c'est pour ça qu'il a fait cette purification, c'est qu'il a donné sa vie éternelle, sa vie impérissable, sa vie pure, pour nous des pécheurs. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un simple personnage biblique, n'est pas un simple prophète, n'est pas un simple rabbin, c'est pas un homme extraordinaire ou étonnant, comme on veut nous dire hein, dans beaucoup de livres sur Jésus ou de biographies sur Jésus. Il est Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Il est le Seigneur. Il est celui qui donne sa vie et qui fait la purification. Est-ce que vous cherchez la purification de vos péchés? D'être purifié. Là encore, ce matin, on avait parlé d'une image informatique. On est beaucoup dans l'informatique, hein, de nos jours. Le formatage d'un disque. Quand vous formatez un disque, hein, vous remettez tout à zéro. Eh bien, quelque part, Dieu veut formater notre cœur, notre âme. Notre âme a accumulé des péchés, des désobéissances, des mensonges, des souillures. Et tout ça s'accumule, hein, dans la conscience. Et ça finit par peser au bout d'un moment. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont déprimés, sont mal dans leur peau, sont énervés avec les autres, parce qu'ils ont ce poids sur leur conscience, ils ne savent pas d'où ça vient, comment c'est là, et comment s'en débarrasser. Alors on essaie de s'amuser, on essaie de se perdre dans la musique, on a toujours nos écouteurs, on essaie de se défouler, d'aller en vacances le plus loin possible, de regarder des films, tout ça, pour oublier, mais la conscience, elle est toujours là et le poids, il est toujours là. Et il n'y a qu'une seule chose qui purifie les péchés, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé sur cette croix. C'est le prophète Jérémie qui dit, est-ce qu'un léopard peut effacer ses taches? Il dit, même si tu le laves avec du savon, tu ne peux pas enlever les taches du léopard. Et ces taches du léopard, c'est les taches sur notre conscience. On ne peut pas les enlever. Il n'y a que Christ qui peut le faire. Et après, il s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, il a reçu la place la plus haute dans l'univers. Celui qui a tout pouvoir, toute autorité sur le péché, sur la mort, sur les démons, sur les anges. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et puis, dans ce chapitre 1, il nous dit hein, qu'il était supérieur aux anges. Et je vais juste passer, mais par exemple, versets 7 et 8 du chapitre 1 de Hébreux. De plus, il dit des anges qui sont ses esprits, ses serviteurs. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il cite ici un psaume. Hein? Et dans le psaume, c'est Dieu qui dit ton trône, ô Dieu. Alors, c'est un psaume un peu mystérieux quand on lit, parce que comment Dieu peut dire ô Dieu à quelqu'un d'autre. Mais c'est dans la Trinité, hein, c'est que le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et qui est le Dieu là, dont le trône est éternel? C'est Christ, c'est le Fils. Jésus n'est pas un simple ange. Il est Dieu. Dieu fait homme. Le deuxième verset pour ce soir se trouve dans le chapitre 2. Et ce sont les versets 14 et 15. Je lis, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, hein, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans ce chapitre 2, l'auteur de l'Épître, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre que Christ a été abaissé pour un temps. Alors qu'il était à la droite de la majesté divine, avant même d'être incarné, hein, il s'est abaissé, mais il ne s'est pas abaissé pour être méprisable, il s'est abaissé pour aller à notre niveau, pour mourir pour nous. Et dans ce passage que je viens de lire, il dit, puisque les enfants, c'est-à-dire nous, nous sommes faits de chair et de sang, hein. C'est une expression hein, orientale, hein. Participe au sang et à la chair, c'est-à-dire nous sommes faits de chair et de sang. Lui aussi est devenu un homme avec un corps hein, de chair et de sang pour mourir afin d'enlever la puissance de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Christ ne devait pas mourir normalement. Qui est-ce qui meurt? Les pécheurs. La Bible dit, hein, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dans la Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, dit, désormais, vous allez mourir. La mort est un jugement sur la rébellion contre Dieu. Et c'est pour ça qu'on est tous mortels, c'est parce qu'on est tous pécheurs. Mais il y en a un qui n'a jamais péché, un homme sur la terre, qui a été juste de sa naissance à sa dernière seconde de vie, c'est Jésus. Il n'aurait pas dû mourir. Et pourtant, il a participé à la mort, il dit ici. Alors pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi il a accepté de se donner à la mort? Il s'est offert à la mort, hein? D'ailleurs, il n'est pas dit sur la croix que Jésus est mort. Comment c'est dit dans le passage des évangiles? Il rendit l'esprit, hein, dans un des évangiles. Il rendit l'esprit, c'est-à-dire, en fait, il s'est offert à la mort. Il a arrêté sa propre vie quelque part. Pourquoi est-ce qu'il est passé par la mort? Parce que nous passons par la mort. Et en passant par cette mort, il a triomphé de la mort. Parce que lui, étant sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, dit la Bible. La mort, si on la personnifie, hein, c'est pas une personne, mais si on la personnifie, voit arriver un pécheur, elle dit, ah ben toi, c'est ça, c'est ton sort. Tu as péché, tu meurs. Très bien. Et puis elle voit arriver Jésus qui est sans péché. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire là. Il est sans péché. Il devrait vivre éternellement, lui. Et Jésus est passé par cette mort pour la vaincre, pour enlever son dard, pour enlever sa force et sa puissance. Et parce qu'en mourant, il a pris notre mort à nous. Et en ressuscitant, il a vaincu la mort pour nous. Christ est présenté comme quelqu'un qui marche devant, hein, et il affronte la mort, il la vainc, et nous, on n'a plus qu'à le suivre, nous qui croyons en Jésus. Je donne l'illustration toujours du fameux pont d'Arcole, hein, cette guerre, la guerre napoléonienne, et le pont d'Arcole était un tout petit pont, et tous les soldats napoléoniens se faisaient massacrer parce que les Autrichiens les attendaient en face et les attendaient tranquillement. Et à un moment, Napoléon s'est dit, on ne va jamais passer ce pont, et pourtant c'est vital, il faut qu'on passe ce pont. Et il est monté sur son cheval, et avant que personne n'ait pu l'arrêter, il a foncé vers le pont. Il a dit, on y va! Et tout le monde a été galvanisé en disant, c'est Napoléon, c'est Bonaparte, c'est notre général, suivons-le. Tous les cavaliers l'ont suivi, tous les fantassins l'ont suivi, et ils étaient tellement nombreux qu'ils ont pris le pont comme ça en quelques minutes. Et Christ, c'est notre général, hein, qui passe là, devant nous. Il a affronté la mort pour nous et il a vaincu la mort parce que lui est sans péché. Il a pu faire regarder la mort dans les yeux, si on peut dire, hein, et dire, moi je ne meurs pas, moi je suis la vie. Et maintenant tu vas arrêter de tuer ceux qui croient en moi. Parce que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, la mort ne nous possède plus. Regardez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, dans l'évangile de Jean, là où l'ami de Jésus, Lazare, était mort. Et nous allons regarder verset 23. Jésus parle avec Marthe, qui est la sœur de celui qui est décédé et qui ne comprend pas pourquoi Jésus ne l'a pas ressuscité. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour, parce que les Juifs croyaient à la résurrection, à la fin du monde. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne meurt pas? Si, malheureusement, on voit beaucoup de chrétiens qui sont morts. Hein. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne mourra jamais. C'est que il ne mourra jamais de la mort éternelle. Et c'est-à-dire, la mort ne le retiendra pas. La mort ne sera qu'un passage. C'est-à-dire, la mort, c'est quand le corps meurt, mais l'âme, elle continue de vivre. Et elle va rejoindre le Seigneur. Et le corps, lui, il attend la résurrection. Pour nous qui croyons en Jésus, qui avons vraiment suivi hein, le Seigneur et qui croyons en lui comme notre sauveur, la mort n'est qu'un rideau, n'est qu'un passage. Parce que Christ l'a vaincu pour nous. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, lui, va devoir affronter la mort éternelle. C'est-à-dire, il va arriver devant le jugement et on va dire, voilà, tu as fait tous ces péchés. Et là, la liste va être très, 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 très longue. Hein, parce que le nombre de péchés que nous commettons en une vie est incommensurable. Et Dieu lui dira, tu as péché, tu es coupable, tu dois aller dans la mort éternelle. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, il est dit, hein, que tous les morts comparaîtront devant Dieu et ils seront jetés dans l'étang de feu. La seconde mort. C'est un jugement qui aura lieu et c'est le pire des jugements, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un dans toute sa vie. Puisque c'est éternel. Mais ceux qui ont cru en Jésus ne comparaîtront pas devant ce trône-là, devant ce jugement-là. Eux, ils ont déjà été sauvés de la mort. Parce que Christ est déjà mort à leur place. Et nous qui croyons, lorsque nous mourons, notre âme va directement au Seigneur. On ne passe pas par un jugement sur nos péchés, parce que nos péchés ont été payés. Et donc, si je reviens à Hébreux, il dit, en mourant, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quelle était la puissance? Est-ce que c'est le diable qui fait mourir, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? Non. C'est Christ qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors pourquoi il dit que le diable avait la puissance de la mort? Parce que verset 15, il ajoute, « Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie asservis. » Le diable nous tient dans la peur de la mort. Et il nous fait croire qu'il en est le maître. Et c'est vrai que le diable pousse les gens au suicide, par exemple. Le diable pousse les hommes à se faire la guerre, à s'entretuer, à se détruire, à se tuer en masse. Tous les massacres de masse sont inspirés par Satan, évidemment. Mais surtout, il essaie de nous garder dans la crainte. Oh, tu vas mourir. Alors, qu'est-ce que font les hommes quand ils ont peur de la mort? Ils essaient de plaire à Dieu et de trouver des choses. Alors, on fait toutes sortes de rites, de salam aleik. On essaie de se rassurer en disant, mais quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. Et beaucoup de religions ont été inventées pour répondre à ce problème de la mort. Si vous regardez les Égyptiens, tout ce qu'ils faisaient pour les morts, vous rendez compte, on leur faisait construire, pour ceux qui étaient riches, hein, on leur construisait un grand bateau qu'on mettait dans le tombeau. Et dans plusieurs peuples, les serviteurs étaient tués. Lorsque le maître mourait, on tuait tous les serviteurs, ils étaient enterrés avec leur maître. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Parce que le maître était mort, donc ma vie n'avait plus de sens, je devais mourir avec le maître et être enterré avec lui et passer la mort avec lui. Mais ça, ce sont des religions humaines, païennes. Mais la foi en Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, il vivra même s'il meurt. Il continuera à vivre éternellement. C'est une certitude, on n'a plus à avoir la peur de la mort, on n'a pas à se faire enterrer avec un bateau ou un piano ou je ne sais pas quoi, ou une voiture. On est enterré, mais notre âme, elle continue à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Notre Sauveur est un grand Sauveur. Il n'est pas un simple enseignant iconoclaste du temps du premier siècle. Il est le Messie, il est le Fils unique de Dieu, il est celui qui était promis dans toutes les Écritures. Il est le seul qui ait fait la purification des péchés, il est le seul qui ait créé l'univers, il est le seul qui peut nous enlever de la puissance de la mort. Nous avons chanté tout à l'heure « À toi la gloire, ô ressuscité hein, !» Et nous pouvons glorifier le Seigneur de ce qu'il a vaincu la mort pour nous. La mort n'est plus ce moment effrayant. On se dit « Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Nous savons ce qu'il y a derrière, il y a le Seigneur qui nous attend. Est-ce que vous avez cette assurance? Est-ce que vous avez cette certitude? Vous avez vu dans Hébreux, hein, il dit « Il a enlevé la crainte de la mort, c'est fini, on n'en parle plus hein, de cette crainte. » Est-ce que vous avez cette foi en Jésus-Christ? Beaucoup ne tiennent pas longtemps dans la foi en Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas réalisé qui est vraiment le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas vu à quel point il est le Sauveur qui nous sauve de la condamnation éternelle. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez ce soir prier dans votre cœur. On peut s'incliner ensemble avant de chanter un dernier cantique.